Voilà, je suis heureux de vous accueillir dans cette chapelle des apparitions. Chères sœurs visitandines, merci de nous accueillir de nouveau pour vivre cette soirée avec nous, prier avec nous et pour nous. Je suis aussi heureux d'accueillir les auditeurs de Radio Espérance, ceux qui assistent à la retransmission en direct sur notre canal YouTube de cet enseignement, qui lance ces rencontres de Paris du mois de décembre 2024. Elles s'inscrivent dans le cadre du jubilé des 350 ans et le thème de ces quatre jours est du cœur de Marie au cœur de Jésus. Nous avons eu la joie d'accueillir dans l'Église le décret publié par le Vatican concernant l'expérience spirituelle de Pellevoisin et qui reconnaît la validité et la fécondité de mieux connaître et d'entrer dans cette expérience spirituelle qui a été vécue. Dans ce décret, il y a eu aussi la mention du cœur de Jésus qui est comme le cœur profond du message de Pellevoisin. Évidemment, comme sanctuaire de Paray-le-Monial, nous nous sommes laissés interpeller par cette fraternité, si je puis m'exprimer ainsi, entre les sanctuaires, qui s'exprime aussi par des visites mutuelles entre le sanctuaire de Pellevoisin, qui nous visite aujourd'hui, je vais présenter l'intervenant dans quelques instants, et puis à la fête de la miséricorde, j'irai intervenir au sanctuaire de Pellevoisin, manifestant ainsi cette relation fraternelle et ces liens profonds que Dieu permet entre les différents sanctuaires. Donc aujourd'hui et demain, nous avons la joie d'accueillir le frère François, membre de la congrégation Saint-Jean, qui est présent depuis de longues années maintenant dans ce sanctuaire et qui interviendra pour nous aider à mieux rentrer dans cette expérience spirituelle vécue à Pellevoisin il y a bientôt 150 ans. Le thème de l'enseignement est « J'invoquerai le Seigneur ». J'ai invoqué au plus profond de ma misère, qui nous introduira à l'heure sainte qui suivra. Nous pouvons dès à présent demander au Seigneur qu'il vienne en nous, lui le Maître intérieur, l'Esprit Saint, qui vient nous enseigner. Et pour cela, invoquons-le avec foi.
J'ai effectivement depuis maintenant 7 ans la grâce de vivre à Pellevoisin, où Estelle Faguette a vécu une expérience forte et une expérience dont elle a témoigné. Estelle, je vais souvent prononcer son nom, c'est aussi Marguerite Marie, parce que elle est née en 1843 et en 1923, 6 ans avant sa mort, elle est entrée comme novice dans le tiers ordre dominicain sous le nom de sœur Marguerite Marie. Elle portait dans sa jeunesse des reliques, portait sur elle des reliques de sainte Marguerite Marie. Elle avait une grande dévotion au cœur du Christ. Et elle est entrée dans le tiers ordre dominicain parce que près du lieu des apparitions, un monastère avait été construit, habité par des religieuses dominicaines. Effectivement, fin août, le dicastère pour la doctrine de la foi a adressé une lettre à notre archevêque, l'archevêque de Bourges, Monseigneur Jérôme Beau, à propos de l'expérience spirituelle d'Estelle Faguette. Cette lettre avait été approuvée par le pape François lors de l'audience du 22 août, en la fête de Marie-Reine. Je vais commencer par citer des extraits de cette lettre du dicastère pour la doctrine de la foi qui a donné, ce qu'on pourrait dire, la décision la plus favorable possible selon les nouvelles normes adoptées par l'Église, la décision la plus favorable pour nous encourager à être attentifs au témoignage d'Estelle Faguette. Elle commence, ou cette lettre d'abord, et son titre est éloquent. Son titre, c'est « Notre-Dame de la Miséricorde, conduis-nous au cœur du Christ ». Et en voici le début. « Excellence, je vous écris volontiers au sujet d'Estelle Faguette et des messages relatifs à son expérience spirituelle en relation avec Notre-Dame de la Miséricorde, à laquelle le sanctuaire de Pellevoisin est dédié. Au cours d'une maladie grave et incurable à Pellevoisin, Estelle Faguette a expérimenté la présence de la Vierge Marie, qui lui a parlé à plusieurs reprises de l'amour de Jésus-Christ. Sa guérison, inexplicable du point de vue naturel, a été confirmée comme miraculeuse par l'archevêque de Bourges le 8 septembre 1983. Bien qu'il ne soit pas dans les habitudes de ce dicastère de se prononcer sur le caractère surnaturel ou l'origine divine des phénomènes surnaturels et des prétendus messages, les paroles qu'Estelle attribue à la Vierge Marie ont une valeur particulière, permettant d'entrevoir une action de l'Esprit-Saint au cours de cette expérience spirituelle. Un peu plus bas, dans une section qui s'intitule « Les récits d'Estelle », on lit « Les récits frappent par leur simplicité, leur clarté et l'humilité. » Ces récits sont brefs, et les paroles de Marie à son endroit le sont encore plus. Plus loin, il est dit « Plus que les paroles de Marie, ce qui fascine, c'est sa présence silencieuse, ses longs silences où son regard de mère guérit l'âme. » Et dans ses récits, la gentillesse, la douceur et le sourire sont fréquents. Enfin, la dernière section s'intitule « Vers le cœur du Christ ». Et le préfet du dicastère écrit « L'expérience de Pellevoisin est mariale, mais en même temps, elle demeure fortement christologique. » En effet, la grande demande de la Vierge à Estelle est qu'elle répande le scapulaire avec l'image du cœur du Christ. Et son grand message est l'invitation à se tourner vers le cœur aimant du Seigneur. En conclusion, il est écrit « Excellence, non seulement je peux affirmer qu'il n'y a pas d'objection doctrinale, morale ou autre à cet événement spirituel et que les fidèles peuvent donner leur assentiment avec prudence, mais au contraire, la dévotion dans ce cas déjà florissante est particulièrement recommandée à ceux qui veulent librement y adhérer. Tous y trouveront un chemin de simplicité spirituelle, de confiance et d'amour, susceptible de faire beaucoup de bien. Il est alors possible d'émettre le décret du nihil obstat. Ce sera assurément un bien pour toute l'Église. Voilà un bel encouragement que nous avons reçu, nous qui vivons dans ce sanctuaire et qui sommes témoins de l'actualité de ce dont Estelle a témoigné. Les apparitions datent de 1876, donc bientôt 150 ans. Et ce qui est frappant à Pellevoisin, et ce soir je vais commencer le récit, ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit bien d'abord d'une expérience spirituelle. Quand la Vierge Marie vient et se manifeste à Estelle, elle ne le fait pas comme pour Catherine Labouré, en venant la charger d'une mission, en lui demandant d'être messagère, de demander quelque chose. Non, Marie vient parce que Estelle l'a appelée à son aide, et Marie vient pour intervenir dans la vie même d'Estelle. C'est d'abord pour elle que la Vierge Marie est venue. Son récit, ce récit qu'elle a rédigé aussi parce que la Vierge Marie le lui a demandé, ce récit si fort dans sa simplicité, comme il est souligné dans son humilité, ce récit, c'est le récit de sa vie conduite par Marie. Et elle le disait, ces paroles, elles étaient d'abord pour moi, mais je crois qu'elles sont aussi pour tout le monde. Et avec beaucoup d'humilité, elle disait, je crois que ce n'est pas à moi de l'expliquer, c'est d'autres qui devront le montrer. Aujourd'hui, Pellevoisin reçoit moins de pèlerins que par El Monial, mais on en reçoit de plus en plus. Et c'est très édifiant de voir comment le cheminement si singulier de cette femme, de la deuxième moitié du XIXe siècle, il peut parler. Alors voilà, j'allais dire l'ambition que j'ai ce soir et demain en vous transmettant son expérience. Qui était donc Estelle Faguet? Les apparitions, c'est en 1876, elle a 32 ans. Elle était née près de Châlons-en-Champagne. Ses parents ont eu 3 filles. Estelle était la deuxième. Son aînée Geneviève avait 2 ans de plus qu'elle. Les parents avaient un peu de bien. Son papa a une petite entreprise, il possédait une auberge, mais un revers de fortune a fait qu'ils sont tombés dans la précarité. C'était quand Estelle avait 3 ou 4 ans, dans sa toute petite enfance. Et le papa a dû devenir ouvrier, mais il avait une mauvaise santé. La famille a donc connu l'appauvrissement. Quand Estelle avait 13-14 ans, comme beaucoup de gens à l'époque, ils se sont dirigés vers la grande ville, vers Paris, en espérant que leur situation allait s'améliorer, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Estelle, à cet âge-là, devient, vers l'âge de 15-16 ans, en fait soutien de famille, parce que sa grande sœur fait un mauvais mariage contre l'avis de ses parents. Elle quitte très vite la maison familiale. À Paris, la situation de la famille n'est donc vraiment pas bonne. Le papa, souvent, ne peut pas travailler. Son salaire suffit à peine à payer le loyer. Donc ses parents comptent sur elle. Sa grande sœur avait été mise en apprentissage, et elle aussi. Mais cet enfant ou cette jeune adolescente qui dit d'elle-même que sa première communion avait été un moment marquant dans sa vie, un tournant. Elle se décrit comme espiègle, mais aussi pleine de compassion. Elle raconte, avec humilité et simplicité, que déjà enfant, ayant remarqué que sa maman était triste, plutôt que d'aller jouer dehors avec ses camarades, elle restait à la maison pour consoler maman. À Paris, elle s'engage dans le mouvement des enfants de Marie. Une des demandes que Marie avait adressée par Catherine Labouré. Estelle aussi, avec le réseau de solidarité de la paroisse, aujourd'hui on dirait le service évangélique des malades, découvre la visite aux pauvres et aux malades. Et elle aime se donner. Et dans son cœur, elle entend l'appel à devenir religieuse pour s'occuper des malades. Elle raconte qu'elle vit un combat intérieur terrible pour obtenir, pour oser en parler à ses parents et obtenir leur accord. D'ailleurs, c'est dans des circonstances un peu étonnantes. Elle dit que c'est son ange qui, dans un demi-sommeil, lui a permis de le faire. En tout cas, à l'âge de 17 ans, elle quitte ses parents pour entrer chez les Augustines de l'Hôtel Dieu. Estelle témoigne du déchirement intérieur qu'elle vit. Sa maman est malade de chagrin pendant 3 mois, et elle le sait. Mais elle reste. Et en même temps, elle demande au Seigneur, et c'est une constante dans sa vie, elle demande au Seigneur, mais que veux-tu? Quelle est ta volonté? Elle aime sa vocation, mais au bout de 3 ans, elle fait une chute, un accident, elle se blesse le genou, si gravement qu'on pense qu'elle ne pourra plus marcher, on parle même de l'amputer, et à cause de cela, elle doit quitter le couvent, quasiment le jour de son 20e anniversaire. Nous sommes au mois de septembre 1863. Ses parents sont très heureux de la revoir. Elle porte une grande tristesse de cette vocation qui n'a pas pu aboutir. Et puis, elle a le scrupule de peser sur ses parents alors qu'elle ne peut pas se déplacer. Elle sollicite l'aide d'une fille de la charité qui non seulement trouve un médecin qui va soigner le genou d'Estelle, un deuxième ensuite prendra la relève et, à l'étonnement aussi des médecins, Estelle retrouvera parfaitement sa mobilité. Et puis cette religieuse sait que Estelle voudrait gagner de l'argent pour aider sa famille, alors elle lui trouve du travail. Du travail de couture pour de riches familles. Et c'est ainsi qu'Estelle rentre en contact avec le comte et la comtesse Arthur de la Rochefoucauld, qui habitaient à l'époque ce qui est maintenant la Maison de la Chimie à Paris. Et elle gagne leur confiance, elle travaille comme journalière, il lui propose finalement de devenir domestique, d'entrer dans leur maison comme domestique pour s'occuper de leurs enfants. Estelle, qui, comme je vous le disais, cherche la volonté de Dieu, à travers les méandres, à travers aussi l'épreuve douloureuse de la sortie du monastère, Estelle dit, voilà, Dieu me montre quelle est sa volonté. Voilà le sens de ma vie, elle l'écrira plus tard, Il sait que c'est pour lui être agréable, votre fils sait que c'est pour lui être agréable, que j'ai sacrifié mon existence pour ma famille qui a tant besoin de moi. Elle fait donc ce choix, guidée par la Providence, d'entrer au service de la famille La Rochefoucauld. Même si ce n'est pas explicite, on voit bien dans ce choix, il y a aussi celui du célibat. De fait, c'est pas son papa à cette époque est rendu incapable de travailler pendant plus d'un an et demi. Voilà donc Estelle, elle entre au service de la famille en 1865, à 22 ans, après quand même des épisodes contrastés. La voilà qui est engagée dans un chemin de vie qui a du sens. Elle aime son travail, elle y est appréciée. Elle a gardé sa piété. De temps en temps, elle est persécutée par d'autres membres, d'autres domestiques à cause de sa foi. Elle tient bon. Dans la biographie que nous possédons d'elle, on voit aussi qu'elle a noué de belles amitiés avec deux autres jeunes femmes, de ces amitiés très incarnées et en même temps spirituelles de ceux et celles qui se soutiennent dans la foi. La vie semble donc maintenant tracée. Mais au début de son service, en 1865, elle est très gravement malade. On parle de péritonite, en tout cas, douleur abdominale extrêmement forte. On pense qu'elle va mourir, elle reçoit l'extrême onction. Finalement, elle en réchappe. Mais en fait, la maladie va continuer d'évoluer. Au terme, on diagnostiquera aussi une tumeur abdominale. Avec les complications gynécologiques, chaque mois, Estelle souffre. Et cela pendant les 10 années qui s'écoulent, de 1865 à 1875. Mais elle peut travailler. Au mois de juin 1875, survient une crise plus violente que toutes les autres. Et le médecin que la comtesse lui fait consulter à Paris donne un diagnostic qui est sans appel. Elle ne pourra pas guérir, bien sûr elle ne pourra plus travailler, et elle n'a plus que quelques mois à vivre. Elle a donc une tumeur abdominale grosse comme une petite orange et puis surtout la tuberculose a atteint les deux poumons. Cette femme, donc à 32 ans, entend cette sentence. Très vite, on la transporte depuis Paris, où avait lieu la crise, jusque Pellevoisin, parce que la famille La Rochefoucauld avait une résidence secondaire là, dans le village de Pellevoisin, au château de Montbel. Estelle souffre dans son corps, elle est alitée dès le mois de juin. Elle souffre aussi de l'isolement parce qu'elle est contagieuse et donc très souvent, elle peut passer des journées entières sans voir personne. Mais surtout, cette femme s'inquiète pour ses parents. Et eux-mêmes lui disent « Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi ?» Et c'est ça qui laboure son cœur. Avec, en arrière-fond, on le voit dans son récit et dans cette lettre que je vais vous lire maintenant, cette question. Pourquoi Dieu permet cela? C'est en vue d'être agréable à Jésus que j'ai donné ma vie pour mes parents, et voilà que je suis malade et que je ne vais pas pouvoir achever mon œuvre. Et du fond de cette épreuve, Dans les premiers jours du mois de septembre, Estelle pose le premier acte de l'histoire des apparitions avant les apparitions. Ce premier acte, c'est un acte très concret. Le soir, elle écrit une lettre à la Vierge Marie. Et le lendemain, elle demandera à une de ses amies d'aller déposer cette lettre devant une statue de Notre-Dame de Lourdes dans une grotte du parc du château. Comme beaucoup de gens à l'époque, la famille La Rochefoucauld avait fait dans leur parc une réplique de la grotte de Lourdes. Elle pose cet acte de supplication avec ce moyen très concret d'écrire une lettre et puis de déposer la lettre près d'une statue. Alors je vous la lis, cette supplique. Elle a été retrouvée, la Providence, ici à Pellevoisin comme dans beaucoup de lieux, nous a réservé beaucoup de clins d'yeux, comme on dit. En fait, la lettre d'Estelle a été retrouvée juste à la fin des apparitions, un peu plus d'un an après qu'elle ait été déposée, comme ça, comme par hasard, pourrait-on dire. Et c'est ce qui nous vaut de pouvoir l'entendre ce soir. Ô ma bonne mère, me voici de nouveau prosterné à vos pieds. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Vous n'avez pas oublié que je suis votre fille et que je vous aime. Accordez-moi donc de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents. Vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressource. Ne pourrais-je pas achever l'œuvre que j'ai commencée ? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Vous voyez, ma bonne mère, ils sont à la veille de falloir mendier leur pain. Je ne puis penser à cela sans en être profondément affligé. Rappelez-vous donc les souffrances que vous avez endurées la nuit de la naissance du Sauveur, lorsque vous avez été obligé d'aller de porte en porte demander asile. Rappelez-vous aussi ce que vous avez souffert lorsque Jésus fut étendu sur la croix. J'ai confiance en vous, ma bonne mère. Si vous voulez, votre fils peut me guérir. Il sait que j'ai vivement désiré être du nombre de ses épouses, et c'est en vue de lui être agréable que j'ai sacrifié mon existence pour ma famille qui a tant besoin de moi. Daignez écouter mes supplications, ma bonne mère, et le redire à votre divin fils. Qu'il me rende la santé, si tel est son bon plaisir, mais que sa volonté soit faite et non la mienne. Qu'il m'accorde au moins une résignation entière à ses desseins, et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Vous possédez mon cœur, Vierge Sainte, gardez-le toujours, et qu'il soit le gage de mon amour et de ma reconnaissance pour vos maternelles bontés. Je vous promets, ma bonne mère, si vous m'accordez les grâces que je vous demande, de faire tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire et celle de votre divin Fils. Prenez sous votre protection ma chère petite nièce et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Faites, ô Vierge Sainte, que je vous imite dans votre obéissance et qu'un jour je possède avec vous Jésus dans l'éternité. Au mois de février, la Vierge Marie lui dira à Estelle, « Ta lettre, elle a touché mon cœur et je l'ai montrée à mon fils. » Et donc la réponse viendra. Mais c'est au mois de février. Entre-temps, il s'écoule de longs mois, pendant lesquels Estelle vit ce combat intérieur dont elle parle dans cette lettre. Accepter la volonté de Dieu, c'est accepter de laisser ses parents sans ressources. Qu'est-ce que Dieu veut ? De fait, son état ne fait qu'empirer. Juste avant Noël, elle reçoit l'extrême onction le 18 décembre. Et elle dit que la grâce de ce sacrement, de la confession et de la communion fait qu'elle accepte. Elle se résigne À cette époque, elle rédige un acte d'abandon que je vais vous lire aussi. « Ô mon Dieu, je ne sais ce que je dois vous demander. Vous connaissez mes besoins. Vous savez ce qu'il me faut. Vous m'aimez mieux que je ne le fais moi-même. Donnez-moi, ô mon Dieu, ce que je ne sais pas vous demander. Je ne veux et n'ose vous demander ma guérison. Je viens seulement à vous. Je vous ouvre mon cœur. Frappez-moi ou guérissez-moi. J'adore et j'adorerai toujours votre volonté sans la connaître. Je me résigne, je me tais, je me sacrifie, je me donne et je m'abandonne. Plus désormais d'autres désirs que de faire en tout votre volonté sainte. Aidez-moi à souffrir avec patience. Que les plaintes qui pourraient s'échapper de mes lèvres soient une prière sortie de mon cœur et qu'elles montent vers vous. Votre cher Fils Jésus, mon Sauveur, a souffert pour moi. Il est bien juste que je souffre pour lui. Il avait la force d'un Dieu. Je n'ai que la faiblesse d'une pauvre créature. Apprenez-moi donc à prier. Ou plutôt, veuillez prier vous-même pour moi qui ne puis. Nous allons maintenant vivre l'heure sainte, cette heure dont le Christ a demandé à Marguerite Marie que nous la vivions en nous souvenant de son agonie. Le cœur de cette petite enfant de la Vierge Marie qui s'adresse à sa mère nous parle aussi, fait écho à la prière du Fils bien-aimé qui dit « Abba ». Ce combat qu'il a voulu connaître pour nous, il trouve son écho également dans celui d'Estelle Faguette. Ce qui est que je voudrais souligner pour finir, c'est cette épreuve que tout disciple du Seigneur à sa suite connaît. Estelle avait combattu pour accepter au début de sa vie d'adulte les desseins de Dieu et elle avait trouvé quelque chose qui donnait sens à sa vie. Mais quand les événements semblent venir contredire tout cela, quand le sens semble s'effacer, comment vivre là encore la confiance ? Jésus nous l'a montré et dans l'expérience d'Estelle Faguette, c'est très touchant. L'acte de la demande, il nourrit l'espérance. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, le dit avec tellement de force. La Vierge Marie, quand elle apportera la réponse à Estelle, mettra en lumière ce fait que l'acte même de se tourner, l'acte même de devenir comme un pauvre, de s'adresser avec aussi ce caractère si cordial de cette lettre, « Vous savez que je vous aime, vous n'avez pas oublié, ressouvenez-vous », cet acte-là, il est filial, il fait grandir la vie, il nourrit l'espérance.